Info matin, Nicolas Legrand.
Donald Trump fixe le cap. Le 46e président des États-Unis a lancé les 100 premiers jours de son mandat sur les chapeaux de roue. Les valseuses, tenue de soirée, le réalisateur Bertrand Blier est décédé. À l'âge de 85 ans, le cinéma français perd un dialoguiste qui cassait les codes. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la répartition des secteurs du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et on y reviendra aussi un petit peu plus tard dans ce 6-8, puisqu'Alcide Ponga, le président du gouvernement, sera notre invité tout à l'heure à 7h30. Le chômage partiel spécifique prolongé jusqu'au 31 mars, voire jusqu'au 30 juin en fonction des financements. Le reliquat des financements de l'État de 2024 servira à financer donc les premiers mois. Le taux passe de 70 à 50% du salaire dans la limite de deux fois le SMG. Le sport et en football, la 7e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Monaco domine Aston Villa 1-0. On approche de la fin du temps réglementaire. Et à partir de 7h, un déplacement annoncé difficile pour Lille à Liverpool qui est en tête du classement. La météo sur la chaîne, la côte est et aux loyautés, des averses faibles se forment dans un ciel très nuageux. Ailleurs, le temps est sec et le ciel devient plus lumineux. Les températures maximales restent assez élevées, entre 29 et 32 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, direction les USA.
Oui, et Donald Trump ne perd pas de temps. Le 47e président des États-Unis doit présenter aujourd'hui le programme des 100 premiers jours de son mandat. Il doit recevoir des responsables républicains au Congrès. Il veut montrer rapidement la rupture avec son prédécesseur. Il a donc signé 42 décrets le jour même de son investiture. Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis.
Les électeurs de Donald Trump sont évidemment ravis de le voir enfin à la Maison-Blanche et surtout enfin au travail, ça c'est ce que me dit Keith, alors que le président a déjà signé de nombreux décrets, vous le disiez, plus de 40 depuis hier.
Il essaye de faire tout un tas de choses qui n'ont pas été faites ces 4 dernières années. Dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, il a commencé à prendre des décisions. J'ai énormément d'espoir pour les 4 prochaines années.
Keith se félicite notamment des décrets signés par Donald Trump en matière d'immigration illégale, lui qui vit au Nouveau-Mexique, tout proche de la frontière.
On a vu ce que ça a fait à notre État. La criminalité a augmenté. Nos agences fédérales sont contraintes d'intensifier les contrôles concernant toute cette immigration illégale. Cela dit, on est bien sûr en faveur de l'immigration légale. C'est comme ça que notre pays s'est construit. Mais de la même façon que vous fermez votre porte la nuit, c'est exactement ce que nous nous devons de faire avec notre pays.
Alors ici à Washington, la ferveur est forcément un peu retombée. Nous sommes dans une ville démocrate. De nombreux républicains venus pour l'investiture sont repartis dans leurs États. Rose s'apprête justement à rentrer en Californie. Le décret s'attaquant aux théories du genre signé hier l'a rassuré.
On est chrétiens et c'est important pour nous qu'ils soient croyants. Et ils ramènent nos écoles à ce qu'elles étaient, avec des valeurs. Pour nous en Amérique, un homme est un homme et une femme est une femme. Et c'est comme cela et pas autrement.
Donald Trump qui a signé hier un décret justement reconnaissant uniquement le sexe masculin et le sexe féminin aux États-Unis. Et puis il promet de nouvelles grandes annonces aujourd'hui.
Et Donald Trump qui a notamment acté le retrait des États-Unis de l'OMS ou encore de l'accord de Paris sur le climat. Des décisions qui suscitent de nombreuses critiques à travers le monde. Hier, la classe politique française a suivi la cérémonie d'investiture. Pour résumer, une partie de la droite se réjouit, le camp présidentiel appelle à la prudence et la gauche se désole, Alexandre Chauveau.
Oui, réaction multiple, sans surprise. Éric Ciotti, invité ce matin de la grande interview de Sonia Mabrouk sur Europe 1, assume une part de fascination à l'égard du nouveau président américain.
Je ne suis pas américain, mais cette fierté américaine, cette force, ce volontarisme, naturellement, elle contraste avec l'impuissance française.
Le président de l'UDR souhaite, lui, valoriser le patriotisme français et supprimer, à l'image d'Elon Musk aux États-Unis, tout un tas de normes jugées liberticides en France. Au gouvernement, l'investiture de Trump est perçue avec un mélange de fascination et de répulsion. François Bayrou appelle notamment les Français et les Européens à l'unité face aux menaces économiques brandies par le nouveau locataire de la Maison-Blanche.
Désormais, sous toutes les latitudes de notre planète, la volonté de dominer était revenue au premier plan. Il est inimaginable que nous relevions ces défis en étant divisés.
Voilà, et puis à gauche, enfin, c'est la désolation. Mathilde Panot déplore, je cite, « la mainmise de l'extrême droite sur les médias et les réseaux sociaux ». Olivier Faure se contente de retweeter la une de Libération avec en photo Donald Trump en train de prêter serment et ce titre « Peine Capitole ».
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. L'actualité politique en métropole, c'est aussi cette annonce. Un premier texte sur les soins palliatifs et un second sur l'aide active à mourir. François Bayrou, le Premier ministre, annonce vouloir scinder en deux le projet de loi sur la fin de vie. Un changement qui provoque la colère des plus fervents partisans du suicide assisté et de l'euthanasie. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Oui, la question de conscience de la légalisation de l'aide active à mourir doit être traitée séparément de celle plus consensuelle du renforcement des soins palliatifs, explique Matignon. François Bayrou, qui s'était personnellement déclaré hostile à la création de ce qu'il appelait en 2023 un service public pour donner la mort, veut donc deux textes distincts, néanmoins examinés en même temps au Parlement. L'idée soulève effectivement une levée de bouclier, non seulement à gauche, mais aussi dans le propre camp du Premier ministre. Les protestations vont de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, à l'ancien rapporteur MoDem de la commission spéciale sur la fin de vie, Olivier Falorni, qui plaide pour un texte unique. Une autre parlementaire du parti de François Bayrou s'emporte. Il est intolérable de vouloir repousser l'aide à mourir aux calendes grecques, lance-t-elle. En revanche, à droite, la démarche du chef du gouvernement est globalement saluée et on explique en substance que c'est une bonne chose de pouvoir avancer sur le sujet des soins palliatifs sans le lier à celui de l'euthanasie.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Je rappelle que ce projet de loi sur la fin de vie avait été initialement porté par le gouvernement de Gabriel Attal, mais son examen avait été interrompu à l'Assemblée nationale par la dissolution en juin dernier. En bref, à Marseille, après le bain de sang de 2023, le nombre de morts liés au narcotrafic a été divisé par deux en 2024. Des chiffres communiqués par le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République de Marseille. 24 personnes sont mortes en 2024 contre 49 en 2023. A souligné toutefois le rajeunissement des auteurs des faits, 3 mineurs de moins de 16 ans seront jugés cette année pour leur participation à ce qu'on appelle désormais des narcomicides. Une baisse des décès due à la fin d'une guerre entre deux clans du trafic de drogue marseillais, la DZ Mafia et le clan Yoda. Et je le disais en titre, la disparition de l'un des plus grands réalisateurs français, Bertrand Blier, nous a quittés à l'âge de 85 ans. Avec Bertrand Blier, le cinéma perd un dialoguiste d'exception, mais aussi un homme qui aimait casser les codes, Alexis de la Fléchère.
Oui, toujours prêt à bousculer la morale, Bertrand Blier, fils de l'acteur Bernard Blier, sort ses trois premiers films dans les années 60, dont Si j'étais un espion, dans lequel il fait jouer son père. Mais c'est bien en 1974 que sa carrière décolle avec l'adaptation au cinéma de son roman Les Valseuses.
Enlève ta main, vieux PD.
Y'a pas de honte.
C'est pas une question de honte, une question d'envie. Moi, justement, j'ai pas envie.
T'en sais rien. Un truc que tu connais pas, tu peux pas savoir si t'en as envie ou pas.
Les Valseuses et Deloubard, joués par les talentueux, vous les avez reconnus, Patrick Devers et Gérard Depardieu. Depardieu pour qui Bertrand Blier confie à l'époque sur Europe 1 avoir une affection toute particulière.
On s'est rencontrés alors qu'on était très différents et on s'est aperçu qu'on était des frères. C'est-à-dire qu'après on a fait Les Valseuses et puis après on a continué. C'était évident.
Et il retrouvera Depardieu dans Préparez vos mouchoirs, Oscar du meilleur film étranger. Suivra Buffet froid, Tenue de soirée avec Michel Blanc et Miu Miu. Trop belle pour toi aussi, 5 fois césarisé. Sans oublier Merci la vie et 1, 2, 3 soleils avec Anouk Grimberg. Bertrand Blier qui terminera sa carrière avec son acteur fétiche, Gérard Depardieu dans Convoi exceptionnel sorti en 2019. 45 ans après donc cette réplique culte des Valseuses.
On n'est pas bien, paisible. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Alexis de la Fléchère pour Europe 1. Il est 6h39. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité sur le territoire. On reviendra sur la répartition des secteurs entre les 11 membres du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais aussi, on parlera évidemment du reste de l'actualité et notamment de cette actualité institutionnelle et cette réunion hier de la commission permanente du Congrès.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Entreprise de Nouvelle-Calédonie, Malakoff Humanis vous informe. À compter du 6 janvier 2025, le régime Agir Carco ouvre la plateforme déclarative DéclareZen. Vous pourrez effectuer vos déclarations de salaire 2024 par la saisie de formulaire ou par dépôt de fichier. La date limite de déclaration est fixée au 31 janvier 2025. Pensez-y, sans votre déclaration, les droits de vos salariés ne pourront pas être calculés. Pour plus d'informations, contactez-nous au 27 99 12.
Grande nouvelle, Mitsubishi vous accueille dans son nouveau showroom, toujours à la même adresse, sur le site Sidaps à Ducos. Venez tester nos véhicules, bénéficiez de conseils adaptés à vos besoins et profitez d'un espace conçu pour votre confort. Rendez-vous dès aujourd'hui pour vivre l'expérience Mitsubishi sur le site Sidaps à Ducos.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foix et Conné.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Et dans le reste de l'actualité ce matin, le 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au travail. Lundi, ses 11 membres avaient échoué à faire aboutir la répartition des secteurs, mais hier matin, une majorité s'est dégagée pour voter cette attribution. Les membres du Rassemblement, des Loyalistes, de Calédonie Ensemble et de l'Éveil Océanien ont voté pour cette répartition que vous nous détaillez, Jean-François Bodin.
Oui, d'abord le président du gouvernement, Alcide Ponga, il est chargé d'animer et de contrôler le secteur du droit civil ainsi que du suivi des questions liées au transport aérien international et à la promotion internationale de la Nouvelle-Calédonie. Il est également chargé des relations avec les collectivités, le Congrès, le CESE et des sujets en lien avec la francophonie. Et puis il est en outre chargé de la stratégie minière. Il faut rajouter à tout cela les compétences qui lui sont propres en matière de relations extérieures et de sécurité civile notamment. Christopher Gisès est le porte-parole du gouvernement. Il était aussi chargé d'animer et de contrôler les secteurs de l'économie, du commerce extérieur, de la fiscalité, du travail et de l'emploi, de l'énergie et du numérique. Il est également chargé des sujets liés à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Isabelle Champmoreau, elle, est chargée d'animer et de contrôler, comme dans le précédent gouvernement, les secteurs de l'enseignement et des questions relatives à l'enseignement supérieur et à l'audiovisuel. Elle est en outre chargée de la protection de l'enfance, des sujets liés à la famille et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est également chargée de la cause du bien-être animal. Thierry Santal, lui, anime et contrôle les secteurs du budget et des finances, du suivi des contrats de développement et de la fonction publique. Il est également chargé du suivi des comptes sociaux, ainsi que des questions liées au handicap et à la dépendance. Jérémy Katidjo-Monnier est lui chargé d'animer et de contrôler le secteur de la transition écologique et du changement climatique. Il est également chargé du développement durable, de la biodiversité, de la gestion et de la valorisation du parc naturel de la mer de Corail. Il est aussi chargé de la politique de l'eau et de la transition alimentaire. Petelo Saourdon est lui chargé des secteurs de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme. Il est également en charge du patrimoine immobilier et des moyens de la Nouvelle-Calédonie. Il est enfin chargé de l'innovation technologique et de la transformation numérique de l'administration, de la modernisation de l'action publique ainsi que de l'évaluation des politiques publiques. Côté indépendantiste, Gilbert Huénon, lui, anime et contrôle le secteur du transport terrestre et des infrastructures publiques qui y sont liées et de la prévention routière. Il est également chargé du suivi du fonds Nickel. Michael Forest anime et contrôle les secteurs de la jeunesse, des sports et de la culture. Il doit aussi suivre les questions liées à la citoyenneté. Samuel Népéon, lui, anime et contrôle les secteurs du transport aérien domestique, des questions liées aux affaires maritimes et des infrastructures maritimes et portuaires. Il est également chargé des questions liées à la recherche et à la valorisation des ressources naturelles et il est enfin chargé de la formation professionnelle. Reste encore Adolphe Digoué qui anime et contrôle le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Il est aussi chargé du pilotage et du suivi du fonds d'électrification rurale. Enfin, Claude Gambet anime le contrôle de la santé et de la protection sociale, mais il doit aussi assurer le suivi du plan Docamo, être épanoui, et de la politique de la solidarité. Et puis en lien avec le président du gouvernement, il est enfin chargé des affaires coutumières et des relations avec le Sénat coutumier et les conseils coutumiers.
Merci Jean-François Bodin. Et pour revenir sur la répartition de ces secteurs, nous recevrons le président du gouvernement tout à l'heure à 7h30. C'est en effet Alcide Ponga qui sera notre invité du matin. L'actualité politique et le bureau politique du FLNKS qui publie un communiqué pour réagir concernant les décisions des responsables politiques loyalistes qui enfoncent, je cite, les populations les plus vulnérables et fragiles et qui fragilisent le vivre ensemble. Anna Colombo.
Oui, il estime que le durcissement par la province sud des modalités d'inscription scolaire et les critères d'attribution des bourses sont des méthodes, je cite, ségrégationnistes. Il s'en prend sans la nommer à la présidente de la province sud et parle d'un comportement méprisable, indigne d'une personne qui prétend vouloir décider de l'avenir du pays. Il s'en prend aussi, et là encore sans le nommer, à Nicolas Metzdorf qui continue, selon le BP du FLNK, son combat pour éradiquer tout ce qui se rapporte à l'identité kanak, et il qualifie le député de la première circonscription de négationniste. Un communiqué signé par le deuxième secrétaire général adjoint de l'UC, Romuald Pidgeot, qui se termine en forme de menace puisqu'il met en garde, je cite, les loyalistes revanchards de ne pas reproduire les erreurs du passé. La violence institutionnelle qui entretient les inégalités a conduit à la violence populaire. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, tout d'abord, 97% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils comprennent la décision de la province sud de réduire ses aides aux boursiers face aux difficultés financières qu'elle rencontre. Ils sont 3% à ne pas le comprendre. Voici maintenant notre question du jour. Après l'attribution des secteurs, pensez-vous qu'une majorité stable va se dégager au gouvernement ? Si vous pensez qu'une majorité stable va se dégager, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. En bref, dans l'actualité judiciaire, une première audience au palais de justice de Paris dans le procès en diffamation de Sonia Backès. La présidente de la province Sud avait en effet qualifié Christian Théin de chef des terroristes lors d'une interview à la radio. Le porte-parole de la CCAT a mené une audience en diffamation. L'audience qui s'est tenue hier était destinée à fixer le calendrier car le dossier ne sera pas jugé sur le fond avant le 15 janvier 2026. Christian Théin, incarcéré à Mulhouse, et Sonia Backès, restée à Nouméa, étaient représentés à cette audience par leurs avocats. Dans l'actualité économique, le moment est venu. Déclaration de Christelle Bory, la PDG d'Eramet, qui va quitter son poste de directrice générale du groupe en mai prochain après deux mandats de 4 ans. Elle souhaite toutefois rester présidente du conseil d'administration de l'actionnaire majoritaire de la SLN. Toujours dans l'actualité, en Nouvelle-Calédonie, les syndicats étaient mobilisés pour le chômage partiel. Rassemblés hier une bonne partie de la journée devant le Congrès, les principaux syndicats du territoire souhaitaient se faire entendre des élus de la commission permanente. Ils étaient en effet réunis hier après-midi pour examiner un projet de délibération relative au chômage partiel spécifique lié aux exactions débutées en mai 2024. Un texte qui prévoit notamment l'abaissement du taux de rémunération horaire brute de 70 à 50%. Écoutez Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA, qui s'exprimait hier avant la séance de la commission permanente.
Aujourd'hui, c'était l'occasion de porter ensemble, les cinq syndicats salariés, notre mécontentement de par cette volonté d'aller voter la prolongation du chômage partiel en baissant l'indemnité de 70 à 50%. Et en revoyant aussi le calendrier, c'est-à-dire que du mois de juin, on tomberait au mois de mars. Aujourd'hui, on le sait, la population souffre, non seulement les salariés, mais aussi la population en général. Le pouvoir d'achat est fortement impacté à tous les niveaux, donc pour nous, c'est juste pas possible, quoi. La semaine dernière, lorsqu'il s'agissait de voter la réforme de la TGC, ils ont choisi de ne pas toucher au taux. Pourquoi ? Ils l'ont dit clairement. Il ne faut surtout pas aujourd'hui aller impacter donc le pouvoir d'achat, le quotidien des Calédoniens. Qu'ils gardent la même logique, la même cohérence aujourd'hui.
Et ajoutons qu'avant la réunion de la commission permanente, le CESE s'était réuni en urgence pour examiner le projet de délibération. Le CESE qui avait rendu un avis favorable à l'unanimité en émettant toutefois quelques recommandations. Il suggérait notamment de prolonger au plus vite le chômage partiel au moins jusqu'au milieu d'année 2025 pour offrir plus de visibilité aux entreprises. Il recommandait également de mettre en place des critères d'éligibilité plus stricts plutôt que de baisser l'indemnisation des salariés. Au final, les élus de la commission permanente ont adopté la délibération, un texte amendé qui prévoit donc la prolongation du dispositif chômage partiel spécifique jusqu'au 31 mars 2025, voire jusqu'au 30 juin 2025, sous réserve toutefois de disposer des financements correspondants.
À Radio Rythme Bleu, 6h48.
Hier après-midi, les 50 stagiaires qui participent à la préparation militaire marine 2025 ont eu droit à une visite de taille, celle du général Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, Léana Colombo.
Ils ont entre 16 et 21 ans, viennent de Nouméa, de Wailou, de Dumbéa ou encore des Loyauté et sont tous volontaires. Pendant un mois, les 50 jeunes calédoniens, dont deux du SNU, Service National Universel, apprennent les rudiments des métiers de marin et de militaire. Hier après-midi, le général Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, a pris le temps d'échanger avec eux.
Ouais, effectivement, je suis venu voir quelles sont leurs motivations, pourquoi ils ont choisi de nous rejoindre pour quelques semaines au sein de la Marine nationale, dans le cadre d'une préparation militaire marine. Ils sont très motivés, et puis si tout se passe bien, nous accompagner sur la durée, soit pour un contrat de réserve, soit pour un contrat d'actif, soit même comme amis des forces armées, amis de la marine. La finalité n'est pas forcément de faire du recrutement dans la réserve ou dans l'active. Évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Mais c'est surtout de parler de nous, de se faire mieux connaître et puis d'affermir quelques vocations ou de lever quelques doutes pour certains d'entre eux.
Ce mercredi, les 50 volontaires rejoignent le camp de Nandaï. 3 jours de bivouac avec une partie très attendue, le tir en conditions réelles. Mais avant ça, ils ont appris à marcher au pas. Ils ont pu tester leurs connaissances maritimes et préparer l'examen du permis côtier. S'essayer aussi au montage et démontage des armes. Cyril, 16 ans, et Sharon, 18 ans, font partie des volontaires.
Bon, en fait, moi je suis venu parce qu'il y avait un esprit de discipline, un esprit de corps aussi. Et le fait d'être un peu côte à côte avec ses camarades, de trouver une autre cohésion, on va dire, surtout aussi quand on veut chercher une carrière militaire, ça peut m'aider aussi. Donc je suis venu, je me suis inscrit et puis j'ai été pris. Du coup, je suis pas mal content quand même d'être là.
Cette formation me permet
de découvrir les autres métiers dans la marine. Et aussi ce diplôme, le brevet de la marine, me permet aussi de rentrer facilement dans le métier marin-pompier.
La préparation militaire marine 2025 a débuté le 6 janvier et se clôturera le 6 février par une cérémonie à la base navale de Nouméa.
Merci Léana Colombo. Il est 6h passé de 51 minutes. On marque une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. On parlera de football notamment puisqu'on joue la Ligue des Champions ce matin.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Cobber chez Cheval Distribution, c'est la marque préférée des chiens calédoniens. Nouvelle formule, nouveau sac. Jusqu'au 2 février, profitez de nos offres spéciales. Ayez le réflexe Cheval Distribution. Vos deux animaleries jardinerie à Bellevue et à Apogoty.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Avec la Calédonienne des Eaux, payez vos factures en toute simplicité. Des bornes de paiement sont là pour vous, proches de chez vous. Profitez d'un service pratique et rapide. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
Du lundi au vendredi, sur Radio Rythme Bleu, Mouna raconte une histoire au tout petit, vers 19h10.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Le sport du football est place à la 7e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions ce matin. Tout d'abord Monaco qui accueillait Aston Villa et qui a gagné 1-0. Et puis d'ici quelques minutes maintenant, à partir de 7h, un déplacement toutefois difficile pour Lille qui se rend à Liverpool qui est en tête du classement. On parle de tennis également. Avec les quarts de finale de l'Open d'Australie, Novak Djokovic a battu Carlos Alcaraz hier en 4-7, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Il s'agira de la 50e demi-finale en Grand Chelem de la carrière du Serbe. Cet après-midi, on suivra la confrontation entre l'Américain Ben Shelton, tombeur de Gaël Monfils au tour précédent, et de l'Italien Lorenzo Sonego. Match à partir de 14h30. En double, il reste des Français en quart de finale. Le Français Édouard Roger Vasselin avec Hugo Nice sera opposé à Harry Aliovara et Henri Patten aujourd'hui. Et puis chez les dames, la Française Kristina Mladenovic associée à la Chinoise Shuang Zhang sera opposée à la paire Katerina Siniakova et Taylor Townsend. On reste en Australie avec du cyclisme et la première étape du Tour Down Under qui a été remportée hier par un local de l'étape. Ça s'est passé au sprint et c'est l'Australien Sam Welsford qui a levé les bras à l'arrivée. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Disputée sous un ciel immaculément bleu et une température moyenne de 30 degrés, cette première étape, qui était longue de 151 km, s'est courue dans une des régions vallonnées les plus pittoresques d'Australie méridionale. Parti très tôt, Zacharia Mariedge et Fergus Browning de l'équipe d'Australie ont compté jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton qui a fini par les rejoindre à 23 km de l'arrivée. Celle-ci a été remportée au sprint par l'Australien Sam Welsford de l'équipe Red Bull Bora devant le Britannique Matthew Brennan de l'équipe Visma et son compatriote Matthew Walsh de l'équipe Groupama. Sans surprise, Sam Welsford endosse aussi le maillot de leader du classement général. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Du handball également avec la France qui affronte la Hongrie au championnat du monde. Première journée du groupe 2 pour les Bleus. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné tout à l'heure à 7h. Toujours du handball et Suzanne Wajoka qui quitte Besançon à la fin de la saison, Léana Colombo.
Effectivement, c'est le club du Doubs dans l'Est de la France qui a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux. La Calédonienne qui s'était imposée comme une joueuse explosive dans le collectif a connu une ascension fulgurante à son poste. Malgré la très grande volonté du club de conserver Suzanne Wajoka dans ses rangs pour les saisons à venir, elle a préféré décliner la proposition pour découvrir de nouveaux horizons. Une décision qui n'a pas été facile à prendre pour les Lierres, récemment appelée pour la première fois en équipe de France. Suzanne Wajoka n'a pour le moment pas dévoilé son futur club.
Et puis du karaté avec des Calédoniens engagés ces derniers jours à l'Open de Marseille.
Une belle compétition durant laquelle les 8 Calédoniens engagés ont pu se confronter aux meilleurs combattants français, européens et même africains. Un niveau très élevé avec près de 800 compétiteurs. On retiendra la médaille de bronze de Tommy Barrault dans la catégorie des moins de 55 kilos juniors et la défaite de Célia Farr chez les moins de 66 kilos juniors là aussi lors de la petite finale.
Et on va recevoir une championne sur Radio Rythme Bleu ce midi. La joueuse de rugby Yolaine Yango est actuellement sur le territoire. La Marienne sera notre invitée dans le journal de 11h30.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et le temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin, les nuages d'altitude resteront bien présents et voileront ou masqueront le ciel. Ils seront doublés sur la côte ouest et au Loyauté, des paquets de nuages bas qui donneront quelques gouttes. Au Loyauté, le vent lui s'orienter sud-est pour ce matin entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, il sera de secteur sud-ouest dominant. Il soufflera entre 5 et 10 nœuds, voire 10 nœuds, aux pointes de la Grande Terre, près des côtes de la Grande Terre également. Il sera souvent variable faible avec quelques accélérations. Ce sera dans les vallées de la côte est en début de matinée. Et cet après-midi, sur la chaîne la côte est et au Loyauté, des averses faibles se formeront dans un ciel très nuageux. Ailleurs, le temps sera sec sous un ciel devenu plus lumineux. Le vent 5 à 10 nœuds pour cet après-midi orienté sud-est, ce sera au Loyauté et sur le sud-ouest. Les températures, elles, 29 à 32 degrés en général.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.